avec le soutien de Van Cleef & Arpels, la référence en la matière. On y évoque des bijoux de sentiment, de pouvoir, des joyaux mythiques, fascinants, romantiques, leurs secrets, leurs légendes. Découvrez l'histoire du grand diamant bleu de Louis XIV et celle des grilles de mariage de Rihanna pour sa quatrième saison.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Le soleil d'Afrique brûle le campement des Français. Sous la plus belle des tentes, la plus riche, un roi est à l'agonie. Nous sommes en août 1270, nous sommes juste à l'est de Tunis, et le roi qui est là, allongé, frêle et malade, c'est Louis IX, bien entendu. On ne l'appelle pas encore Saint-Louis. Il a le visage émacié, très beau visage, très noble, ce souverain de 56 ans, visage marqué par le temps sans doute, marqué aussi par une fatigue qu'on peut supposer insurmontable. Si le roi est à l'époque si loin de la France, c'est qu'il mène une nouvelle croisade, qu'il a donc dirigée non pas vers Jérusalem ni même vers l'Égypte, mais de manière assez étonnante vers cette côte du Maghreb. Et disons les choses, cette offensive lancée quelques semaines plus tôt, ne s'est pas bien passé du tout. Les violences qui ont déjà eu lieu n'ont donné aucun avantage décisif aux Français. Et voilà maintenant qu'une épidémie frappe les croisés, épidémie qui vient à toucher le roi lui-même. Alors est-ce qu'on est malade de la dysenterie, du scorbut? Difficile à dire. Autour de lui, en tout cas, ce ne sont plus que prières et incantations. Pour beaucoup, l'espérance faiblit. Ce qui est en train de se faire jour dans le camp des Français, c'est un désarroi que rien ne paraît pouvoir surmonter. D'autant que les proches du roi lui cachent une nouvelle terrible, c'est qu'un de ses fils, le prince Jean Tristan, qui a 20 ans seulement, Jean Tristan vient d'être fauché par l'épidémie. Après des jours d'atermoiement, c'est un moine vêtu de noir et de blanc qui prend sur lui d'annoncer au souverain la terrible nouvelle. Louis est effondré, bien entendu, mais il va, comme toujours, réagir avec cette piété qui, depuis des décennies, lui confère une réputation de tempérance et de discernement, réputation aussi d'intransigeance, il faut bien le dire. La réponse du roi est extraordinaire lorsqu'on lui annonce la mort de son jeune fils. « Notre Seigneur me l'a donné, notre Seigneur me l'a ôté, que le nom de notre Seigneur soit béni », dit-il seulement. La réalité de la croisade en cours doit donc reprendre le dessus. Certains parmi les barons rêveraient d'une offensive brutale contre les ennemis qui, depuis leur camp, mènent de leur côté et avec efficacité des attaques éclairs. Les ennemis protègent Tunis, bien entendu. Seulement, les conditions, disons-le, ne sont pas idéales. Le fils aîné du roi, Philippe, a beau avoir 25 ans, il a beau être déjà père de 4 fils, son aptitude à régner n'est pas évidente, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis disons aussi qu'il est malade, lui aussi. En fait, toute l'armée croisée est affaiblie. On juge donc préférable d'attendre l'arrivée du puissant frère de Louis IX, Charles d'Anjou, qui est roi de Sicile et dont on sait qu'il doit arriver là incessamment. Alors, chaque jour, les croisés guettent à l'horizon l'escadre de secours qui doit arriver et qui ne vient pas. Et pendant ce temps, le roi Louis s'approche du trépas. Le jour du 25 août, les derniers doutes qu'on pouvait avoir sur son état s'évanouissent. Le roi est maintenant comateux. À chaque fois qu'il revient un peu à lui, c'est pour mobiliser sa foi. Symbole fort et terrible, il souhaite qu'on le dépose à présent sur une couche couverte de cendres. « Il s'y fit porter », raconte Alain Decaux. « Tu es poussière et tu redeviendras poussière ». Trop faible, il ne parlait plus. Il avait croisé les mains sur sa poitrine et ainsi demeurait immobile. Point inconscient, pourtant, son regard s'attachait à ceux qui entraient et sortaient de la tente. Parfois, un effort immense, il levait la main droite pour un signe de croix. Vers midi, il regarda le ciel. Il murmura « Introibo indomum tuam, adorabo templum sectum ». J'entrerai dans ta maison, j'irai t'adorer en ton temple. Ses paroles ultimes, à 3 heures, il cessa de respirer. Pour les croisés, c'est bien un saint qui vient de rendre l'âme là, au milieu d'une expédition en déroute. Le roi Louis est donc mort. Et c'est à ce moment-là que finit par arriver l'escadre qu'on attendait tellement. Voilà le frère Charles d'Anjou, le roi de Sicile. Comme pour redonner un peu d'élan à la croisade, il fait dans le camp une entrée tout à fait solennelle. Il espère rasséréner un peu les croisés tellement éprouvés. Il a la tête haute, Charles, le regard fier sous ses bannières. C'est un politique expérimenté, Charles d'Anjou, et tout de suite il va à la rencontre des autres princes qui sont là présents. Il tient à se montrer vaillant, décidé. Toutefois, quand vient le moment de rendre hommage au défunt roi, il lui est plus difficile de garder contenance. On le voit s'approcher de ce cadavre tellement impressionnant. Il s'abaisse pour le baiser avec le plus grand respect. À ce moment-là, l'émotion le saisit, sans doute trop grande pour être contenue. Il va laisser échapper comme malgré lui, « Ô mon seigneur, ô mon frère !» Une fois l'hommage rendu à la dépouille, un problème concret va se poser au roi de Sicile, mais aussi à son neveu, qui est devenu le roi de France Philippe III, qui est toujours souffrant. Il n'est pas envisageable, en effet, de laisser un défunt si respecté reposer en sol non chrétien. Il va bien falloir ramener ce corps en Europe. Ce vœu pourrait sembler une simple formalité, mais en fait, il marque le début d'une aventure étonnante dans laquelle des enjeux politiques et religieux vont prendre toute leur part. Le chœur et l'orchestre de Halley, sous la direction de Maurice Handford, interprétaient ce Panis Angelicus de César Franck.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
La première difficulté qui se pose à tous ces chefs croisés, qui sont encore dans le grand deuil de Saint-Louis, enfin de Louis IX, c'est de savoir comment traiter le corps du roi. Ça, il y a un problème de conservation, on est en plein été, il fait extrêmement chaud aux abords de Tunis, il faut agir vite. Dès le 26 août, donc le lendemain de la mort du roi, une opération pénible va être menée devant témoins. On est au cœur du Moyen-Âge encore, hein, à une époque où la mort est évidemment beaucoup moins cachée qu'elle ne l'est devenue dans nos sociétés. Il faudrait relire Philippe Ariès et voir ce qu'est devenue la mort en Occident. Le docteur Nourry, dans un article de la Chronique médicale, nous dit « Aidés des officiers royaux et sous la surveillance des médecins, les chirurgiens fendirent le corps pour en extraire les entrailles et les viscères, le cœur fut mis à part ». Étaient présents son fils aîné, Philippe, son gendre, Thibault, sa fille Isabelle et ses deux frères, Alphonse de Poitiers et donc Charles d'Anjou. Les officiers dépecèrent le corps en morceaux qui furent mis à bouillir dans un mélange d'eau et de vin et ils nettoyèrent les os en détachant soigneusement les chairs cuites. Oui, ça paraît une drôle de cuisine pour nous, mais c'était ainsi. Hein. Les restes vont être l'objet de soins très particuliers. Le cœur est enserré dans du tissu avec divers produits et toutes sortes d'aromates, d'herbes odorantes. Les chairs et les entrailles sont, c'est encore le docteur Nourry qui nous le dit, additionnés de sel et enveloppés dans plusieurs doubles de toile imprégnées de cire, puis cousus dans un cuir de taureau. Quant aux ossements, ils sont aussi entourés de tissus cirés. Chacun de ces éléments va être déposé dans un réceptacle adapté. Bref, on a préparé le roi, si j'ose m'exprimer. Maintenant, quoi faire de tout cela? En ce temps où l'on prise tant les reliques, les restes de l'ancien roi et de celui dont on devine qu'il sera un saint un jour, c'est un futur saint, ces restes suscitent beaucoup de convoitises bien sûr. Le roi de Sicile parvient à se faire confier les viscères et semble-t-il le cœur de son frère. Pour tout vous dire, les historiens ne sont pas tous d'accord avec ce point. Pour Charles d'Anjou, obtenir ces dons relève d'un désir familial, mais pas seulement. Il est monté lui-même sur le trône sicilien dans des conditions qui ont été discutées pour lui. Faire parvenir sur son île des restes aussi prestigieux, c'est en quelque sorte associer un patronage symbolique fort à son nom et à celui de sa toute jeune dynastie. Et donc, sans tarder, il va faire entreposer ses restes sur un bateau à destination de la superbe abbaye de Mandréal, au sud-ouest de Palerme. Le squelette, de son côté, est confié bien sûr au nouveau roi, hein, au fils survivant de Louis IX, Philippe III, celui qu'on appellera Philippe III le Lion, vous savez. Visiblement, le jeune homme a besoin d'être guidé pour savoir exploiter tout de suite le don qui lui a été fait. Je cite Xavier Hélary est l'auteur de « La dernière croisade ». C'est un ouvrage extrêmement précis et intéressant sur tous ces événements. Je le cite donc. C'est Charles d'Anjou qui convainc son neveu de garder les ossements au sein de l'armée. Une fois de plus, on ne peut qu'admirer l'habileté du roi de Sicile, qui sait, en excellent meneur d'hommes, ce qui peut renforcer le moral d'une armée placée au milieu des périls. Parce que pendant ce temps, il faut vous dire que la pénible croisade continue, bien entendu. La croyance en un secours surnaturel du roi défunt ne sera pas de trop pour venir en aide à ces pauvres hommes qui sont décidément en grande difficulté. Et comme un défi, la tante de Charles d'Anjou est disposée en direction des troupes du calife de Tunis. Philippe III, lui, reste en proie à une fièvre aiguë, nous dit la chronique, et ajoute son biographe Charles-Victor Langlois, le roi de Sicile prit en fait le commandement de l'armée. C'est ça qui se passe, c'est le frère de Louis IX qui prend les choses en main. Charles d'Anjou ne veut pas se contenter d'une retraite peu digne. Avant de renoncer, il lui faut obtenir quelque chose. Il a une attitude très volontaire dans toute cette affaire, le roi de Sicile, et ça aboutit le 4 septembre à un engagement armé, un de plus, sur un terrain couvert de poussière et de sang. On est tout près du lac de Tunis. Les croisés, cette fois, vont l'emporter, mais la capitale ennemie ne sera pas prise, elle reste protégée. 4 semaines plus tard, le 2 octobre, les troupes, avec cette fois Philippe III de nouveau sur pied, vont progresser jusqu'au campement ennemi. Et ça, c'est un pas important. L'adversaire n'a fait que reculer, hein, quand même, dans cette affaire. Dans chaque camp, la logique diplomatique désormais s'impose. Le calife craint que son armée ne perde certains alliés, Tunis paraît davantage en danger, les barons croisés, eux, s'interrogent sur la raison d'être d'une expédition dont personne n'a véritablement compris les tenants et les aboutissants. On sait en plus qu'avec l'hiver, la météo va devenir capricieuse, l'approvisionnement est loin d'être garanti. Bref, il faut accélérer les négociations. On va essayer de parler. Les tractations aboutissent à la fin de ce mois d'octobre. Les résultats ont peu à voir avec les objectifs religieux et militaires qu'avait poursuivi sans doute Louis IX en venant de ce côté de la Méditerranée. Pour l'essentiel, les croisés se retirent contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Par ailleurs, et ça c'était à prévoir, le roi de Sicile s'est ménagé des clauses arrangeantes pour lui-même. Certains croisés, disons-le, sont déçus. Ils désirent enchaîner avec des opérations en Orient, mais Philippe III est très impatient de retrouver son royaume, de retrouver Paris. Il doit prendre les rênes du pouvoir. Il doit maintenant reconduire aussi sa part des restes paternels à bon port. Et voilà donc que, le 20 novembre, l'escadre royale quitte la terre de son échec. Le rivage tunisien s'éloigne, s'estompe. Un long retour commence, je devrais dire plus justement qu'il ne fait que commencer. un extrait plein de cuivre du poème symphonique Rédemption de César Franck, un poème symphonique dont je trouve qu'il annonce un peu Richard Strauss déjà. L'orchestre de la Suisse romande était sous la baguette d'Armin Jordan.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le 22 novembre, la flotte royale atteint Trapani. On est dans l'ouest de la Sicile. Ce doit être le moment d'une pause que tout le monde attendait, vous l'imaginez bien. Sauf que soudain, le vent souffle, la pluie se déchaîne, la mer se gonfle. C'est une dépression très violente et les bateaux sont secoués. Il y a des coques qui se percent, on voit les planches céder, les poutres se casser, les embarcations sont envahies par les flots et deviennent bientôt des épaves. Et des milliers d'hommes, je dis bien des milliers d'hommes, vont être avalés par la mer. Véritable carnage et bien entendu, parmi les croisés, sauf à terre, un bruit terrible circule. Cette tragédie serait un message venu du ciel. Je cite encore Xavier Hélary. Baudouin de Condé, qui écrit peu de temps après les faits, interprète la tempête comme le juste châtiment de la cupidité des croisés qui ont accepté le grand trésor des ennemis. Un chroniqueur proche de la cour capétienne n'hésite pas à écrire quelques années après l'événement que les croisés s'arrêtèrent au port de Trapani où il arriva par la volonté de Dieu à qui ce retour ne plaisait pas qu'une grande tempête sortît de la mer. Bref, il va falloir apaiser le ciel. Les grands seigneurs confirment un vœu qu'ils ont de remettre sur pied une expédition vers l'Orient d'ici au moins 3 ans. Peut-être même plus vite que ça. Et pour l'instant, la priorité du roi, du nouveau roi, Philippe III, c'est de retourner vers son royaume, et cette fois par la terre. Il va avancer avec son grand cortège jusqu'à Paris. Une des premières haltes le conduit donc à l'abbaye de Montréal, où il peut se recueillir près des restes de Louis IX confiés à son oncle. Le jeune roi ne gagne la pointe de la botte italienne qu'au début de 1271, et puis il va remonter toute la péninsule avec son chargement sacré. Long, interminable voyage accompagné d'un contingent important sur des routes dont on peut imaginer au XIIIe siècle qu'elles ne sont pas évidemment très, très confortables. Et surtout, il va y avoir encore des catastrophes. Dès l'étape sicilienne, le roi de Navarre, le beau-frère de Philippe, a été vaincu par la maladie. Et puis en janvier, l'épouse enceinte du jeune souverain Isabelle va passer un cours d'eau sur sa monture quand soudain, elle est déstabilisée, elle s'effondre et elle va perdre son enfant. Et elle-même, après une agonie horrible, va mourir. Son squelette s'ajoute donc aux autres que le convoi transporte. C'est une expédition infiniment macabre. Le roi écrivait à l'abbé de Saint-Denis qu'il avait toujours ainsi sous les yeux les plaies saignantes de sa famille, note Charles-Victor Langlois. Et ça ne s'arrête pas là. Il y aura encore à déplorer d'autres décès, tout comme des disputes, des règlements de compte terribles et qui dégénèrent. Bref, on a l'impression que sur cette fin d'expédition décidément calamiteuse, le sort ne fait que s'acharner. Quelque chose quand même va contrebalancer en partie ces malheurs en série. De halte en halte, la marche des croisés vaincus connaît au-delà des tensions et au-delà des difficultés une forme de triomphe dont je m'empresse tout de suite d'ajouter qu'il n'a rien de militaire. Il faut imaginer, nous dit Xavier Hélary, reconnaissable aux bannières fleur-de-lysée, le convoi du roi de France faisant son entrée dans chaque ville précédé par les chevaux qui portent les coffrets au milieu d'une foule pleine de ferveur. La nuit, les ossements sont déposés dans une église. Pour tous, italiens comme français, ce sont déjà des reliques et le coffret qui les contient, une châsse. On se presse pour s'en approcher et pour le toucher. Des événements étranges vont avoir de quoi nourrir l'idée que les restes du roi Louis seraient porteurs de prodiges. Quelques personnes vont se déclarer libérées de telle ou telle maladie, de telle ou telle affection. On crie partout au miracle. Et le convoi poursuit sa route qui devient une sorte de chemin de gloire, mais de chemin religieux de gloire. Le printemps est déjà entamé quand Philippe III arrive enfin sur ses terres de France. En mai, ce sont les Parisiens qui accueillent enfin son entrée solennelle dans la capitale et sans tarder, des messes sont célébrées pour le retour du roi vivant, Philippe III, et du roi mort, bien sûr, du roi mort Louis IX. C'est le 22 mai qu'on va lui dire adieu. Philippe III et quelques hommes portent eux-mêmes les ossements vénérés vers Saint-Denis. Et de nouveau, à l'arrivée, les bas intérêts du monde créent une fausse note, puisque les religieux de l'abbaye vont pinailler pour que deux évêques ne participent pas à la cérémonie. Péripétie. Le squelette du roi disparu devant Tunis 9 mois plus tôt peut enfin reposer dans la nécropole royale. On sait qu'une partie des ossements plus tard sera déplacée vers la Sainte-Chapelle. Entre-temps, en 1297, Louis IX sera officiellement devenu Saint-Louis. Vous l'avez vu, la dévotion populaire n'aura pas attendu la décision de l'Église. Et voici Saint-Christian. Je parle de Saint-Christian Morin, bien sûr. Bonjour Christian.
Bon, si vous me canonisez en début de semaine, alors je me demande dans quel état je vais être en fin de semaine. Dites-moi, en parlant de Saint-Louis, juste une question technique, puisque bon, Notre-Dame n'est toujours pas ouverte au public, les travaux sont tellement longs et remarquables. On peut saluer d'ailleurs toutes les équipes qui travaillent sur ce chantier inouï. J'avais été très ému lors de la visite du trésor de Notre-Dame, vous savez, où il y a dans cette vitrine la tunique, justement, de Saint-Louis en lin, qui est quelque chose d'extraordinairement, je dirais, émouvant.
Oui, un objet d'humilité par essence, hein, c'est véritablement
exactement.
Ça. Vous imaginez ce roi, l'un des plus grands rois de la chrétienté, qui n'a que cette tunique de lin lorsqu'il accueille la Sainte Couronne, c'est magnifique.
Et sur le papier qui accompagne, il y a un petit texte qui accompagne la tunique, qui dit de mémoire, je crois que ça se terminait par « n'y a qu'une manche », puisqu'il manque une manche sur ce tissu de lin. Alors je voudrais savoir où se trouve ce trésor aujourd'hui. Je pense qu'il a été préservé.
Il a été mis à l'abri, oui, bien entendu. Je pense qu'on pourra assez vite voir tous les trésors de Notre-Dame.
Voilà ce cher Saint-Louis qui rendait la justice sous ce chêne à Vincennes, disait-on à l'école, quand on apprenait l'histoire. J'allais rajouter quelque chose qui va créer la polémique. J'allais dire quand on apprenait l'histoire convenablement. Bref, n'entrons pas dans ce genre de détails. Je vous souhaite quoi pour cette semaine? Le meilleur et puis d'autres anecdotes formidables et histoires à nous raconter dès demain.